J'espère que vous serez un peu plus animé pendant ce service. Combien de C pour les lycéens ou les collégiens? Pouvez-vous lever la main? Laissez-moi voir qui est là. Très bien. Je vais vous demander de faire quelque chose pour moi très rapidement. Les lycéens et les collégiens savent que lorsque je parle, j'aime faire participer le public. Alors, les étudiants, que faisons-nous lorsque nous mentionnons les écritures? Eh bien, ce n'était pas une présentation très bruyante, mais si vous vous posez des questions, que faisions-nous? Lorsque nous donnons nos messages, nous aimons pousser des cris de louange, joindre les mains, être heureux et bruyant pour les écritures que nous abordons, car les écritures sont inspirées de Dieu et elles sont pour nous, elles sont passionnantes et nous devons être enthousiastes pour les écritures. Alors, est-ce que vous pouvez tous faire ça pour moi? Vous êtes au deuxième service. Elle a dormi davantage. Alors, laissez-moi juste tester. À sa place et à son heure, je te donnerai le ce qui te revient, ok? Donc, le premier passage de l'écriture est... très bien, vous avez en quelque sorte compris. Cela m'aide à savoir que vous ne vous endormez pas sur vos chaises et que vous écoutez parce que je vais vous faire recommencer. Mais pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu les nouvelles, je suis le pasteur du lycée ici. Je m'appelle le pasteur Owen. Et le pasteur Steve m'a dit, voulez-vous parler le 21? Et j'ai répondu, sont-ils prêts? Mais je suis excité. Je pense que Dieu a mis un très bon cœur ou un bon message dans mon cœur auquel nous pouvons tous nous identifier et que nous pouvons tous retenir. Il y a quelques semaines, le pasteur Steve a fait un message sur l'amour et il a partagé combien de nos relations brisées sont dues à une incompréhension de ce qu'est vraiment l'amour. Le fait de suivre les mauvais modèles. Je pense que l'amour est une question de sentiment. Mais l'amour est bien plus qu'un simple sentiment que l'on ressent dans son cœur. Parce que même si les sentiments vont et viennent, que l'on a des sentiments forts et des sentiments faibles, l'amour dont nous parlons dans la Bible est un amour basé sur l'action. Choisir de traiter quelqu'un avec amour plutôt que de se contenter de ce que l'on ressent. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus nous montre son amour. Comment Jésus ne nous montrait pas seulement ce sentiment d'amour, ce truc d'amoureux, mais comment il agissait, comment il traitait les gens avec amour. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet. Attendez, nous avons déjà parlé de cela. Ouais, vous allez louer quand nous aborderons les Écritures. Quelque chose d'assez amusant. Ouais, refaisons-le. Quel est le premier passage des Écritures que nous allons aborder? Et voilà, d'accord, vous êtes réveillés. Quelque chose d'assez amusant. Vendredi dernier, on a organisé une soirée entre lycéennes à la maison et j'ai été banni au ministère des jeux vidéo, ce qui, oh là là, je ne peux pas, je ne sais pas. Mais l'amour dont nous allons parler, c'est que montrer de l'amour à quelqu'un, ce n'est pas soutenir sa façon de vivre, ce n'est pas soutenir son péché, ce n'est pas aimer sa façon d'agir. Donc, quand on examine cela, il faut juste comprendre avant de s'y attarder que montrer de l'amour à quelqu'un, ce n'est pas soutenir sa façon d'agir, ce n'est pas dire que ce qu'il fait est bien, mais montrer de l'amour à quelqu'un, c'est dire que même si c'est arrivé, je choisis d'aimer. Vous voyez, ce n'est pas seulement le sentiment que je peux ressentir, que je peux me sentir en colère, que je peux me sentir blessé, mais ce que nous voyons dans la Bible, c'est que je vais choisir que même si je ressens cela, je vais choisir de vous montrer de l'amour parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous allons donc examiner quatre passages différents dans quatre circonstances différentes où Jésus nous montre comment nous devons aimer les gens et que nous méritons d'être aimés. Chacun d'entre nous mérite d'être aimé. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Jésus regarde au-delà de nos péchés. C'est donc à nous, disciples du Christ, de faire de même. Le premier passage des Écritures que nous allons aborder est... Oui. Allons-y. Très bien. Voici donc l'histoire de Zaccheus. Elle se trouve dans le livre de Luc 19 sur 5-10. Il est dit que lorsque Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zaccheus, descends immédiatement. Il faut que je loge aujourd'hui chez toi. » Il descendit aussitôt et le reçut avec joie. Tout le peuple vit cela et se mit à murmurer. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zaccheus se leva et dit au Seigneur, « Regarde, Seigneur, je donne ici et maintenant la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai escroqué quelqu'un, je lui rendrai quatre fois la somme. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je vais maintenant faire un autre petit test. Voyez qui a grandi à l'école du dimanche. Zaccheus était un tout petit homme. Un petit homme, c'était lui. »
Oui, nous avions beaucoup plus de participation au service. J'aime ça, mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Zacchus était un homme de petite taille. Mais qui était Zacchus? C'était un chef des collecteurs d'impôts juifs. Vous vous dites peut-être, d'accord, mais à cette époque, Rome, l'Empire romain prenait de plus en plus d'argent au peuple juif, le rendant de plus en plus pauvre. Et donc Zacchus était un collecteur d'impôts juifs pour Rome, ce qui signifie qu'il était l'ennemi public numéro un. Les gens disaient, c'est un traître. Il est l'un des nôtres. Ce serait comme si quelqu'un dans notre congrégation mentait, trichait et volait tout le monde. Vous vous diriez probablement, et puis Jésus débarque et dit, je vais chez toi. Vous vous dites, quoi? Zacchus était donc un paria. Il n'était pas aimé. Et donc peut-être que certains d'entre nous sont ici aujourd'hui et nous pouvons en quelque sorte nous identifier à cela lorsque nous avons l'impression que les gens nous ont tourné le dos. Nous avons été blessés. Nous avons été brûlés par des gens. Nous nous sentons rejetés. Nous nous sentons mal aimés. Mais aujourd'hui, nous allons aborder la première histoire dont nous allons parler, celle de la façon dont Jésus aime ceux qui ne se sentent pas aimés et se sentent exclus. Certains d'entre vous ont peut-être entendu l'expression « blesser les gens, blesser les gens ». Nous la voyons parfois avec les brutes ou avec les personnes qui nous ont blessés, donc je ne vais pas leur rendre service. Mais nous le voyons avec Zacchus. Chaque action a une réaction. Donc ces gens le rejettent en lui disant « Nous ne voulons pas de toi ici. Nous ne t'aimons pas. Tu n'es pas désiré. Tu es rejeté. » Et donc il dit « Je vais continuer à prendre plus d'argent. Je vais continuer à te voler. » Et c'est juste cette cause et cet effet qui ne font que grandir de plus en plus. Et puis Jésus apparaît. Amen. Et puis Jésus apparaît. Et pendant que Jésus marche, tous les gens de cette ville l'entourent. Et évidemment Zacchus dit, « Tu es petit, sors d'ici, je peux te pousser. » Et donc il grimpe dans cet arbre parce qu'il sait que ce Jésus est important. Je veux voir ce qu'il fait. Et pourtant Jésus traverse toute la foule de tous les gens qui cliquent, les gens qui se rassemblent, et il dit, « Je viens chez toi. » Et puis Jésus apparaît. Zacchus était devenu tellement adulte et habitué à ce que les gens le rejettent et le repoussent, coupant les ponts, ne voulant pas de lui. Et pourtant, Jésus traverse la foule et s'approche de Zacchus. Combien de fois aimons-nous considérer cela comme une démonstration d'amour de Jésus envers Zacchus, mais combien de fois passons-nous à côté de cela et les gens se mettent à marmonner? Jésus va être l'invité d'un pécheur. Maintenant, combien de fois sommes-nous ces personnes qui, en voyant quelqu'un en difficulté, quelqu'un qui est blessé, nous disons simplement « absolument pas ». En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à aimer comme Jésus, et nous voyons que Jésus aime ceux qui ne se sentent pas aimables et se sentent exclus. Jésus recherche cette personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui se sent comme ça, qui se sent exclu, qui se sent mal aimé, qui se sent indésirable. Mais nous voyons que Jésus est là pour vous chercher. Jésus dit, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les perdus. » Jésus nous cherche. Jésus vous cherche. Le prochain passage de l'Écriture que nous allons examiner est... Allons-y. Il se trouve dans le livre de Jean 8 sur 3-1. Il est écrit, « Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent se tenir debout devant le groupe et dire à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Maintenant, qu'en dites-vous ? » Ils utilisaient cela pour l'interroger ou cette question comme un piège afin d'avoir une base pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire sur la terre avec son doigt. J'aime son insolence. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur la terre. À ces mots, ceux qui avaient entendu s'en allèrent un par un, les plus âgés en premier, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Jésus. La femme étant toujours là, Jésus se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-elles ? Personne ne t'a condamné ? Personne, Seigneur, dit-elle. Alors, moi non plus. Je ne te condamne pas non plus, déclara Jésus. Va maintenant et abandonne ta vie de péché. » Nous voyons donc que cette femme a été prise en flagrant délit de péché. Et les docteurs de la loi, les pharisiens, les personnalités religieuses ne faisaient que la faire parader. Regardez cette femme prise en flagrant délit de péché. Regardez ça. Regardez, c'est une pécheresse. Tout le monde la regarde. Saviez-vous qu'il existe une statistique selon laquelle la majorité des raisons pour lesquelles les gens abandonnent leur foi ou quittent l'Église sont dues à des personnes qui ne les traitent pas avec amour dans l'Église? Je ne cherche pas à pointer du doigt. C'est une statistique parce que les personnes qui prétendent connaître Jésus et avoir une relation avec Dieu sont celles qui sont promptes à le souligner et lorsque les gens essaient de trouver l'amour de Jésus, c'est notre travail de refléter cet amour. Mais nous voyons ici que j'aime l'impertinence de Jésus. Ces gens essaient de le coincer et de se disputer, et ils disent, « Oh, nous avons un si bon argument. » Et Jésus dit, « Je serai avec toi dans une seconde. » Et ils continuent de poser des questions et de poser des questions, et Jésus dit, « MHM. » Ouais, MHM. Les érudits pensent que Jésus a écrit les péchés de tous les accusateurs. De cette façon, s'ils disent, « Je ne suis pas un pécheur, Jésus. » Il dit, « HM, tu veux souligner les siens ?» Les religieux essayaient d'embarrasser et de faire honte à cette femme. Ce qui nous amène à notre point suivant. Jésus aime ceux qui ont honte et sont gênés par leurs péchés. Combien d'entre nous ont fait une erreur et essayons de la cacher au fond d'eux-mêmes? Nous essayons de faire en sorte que personne à l'église ne la voie. Nous nous assurons que personne ne la voit jamais. C'est une erreur. Je vais la garder ici. Mais Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. La condamnation, la honte et l'embarras ne viennent pas de Dieu. Écoutez cela, Église. Si vous vous sentez condamné et honteux d'une erreur passée, d'un péché passé, Jésus s'agenouille et dit, « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Voyez-vous, nous voyons que Jésus montre de l'amour à cette femme. Il ne dit pas, « C'est bon, j'ai aimé ce que tu as fait, c'était bien. » Non, il dit, « Je ne vais pas te rabaisser. Va et ne pêche plus. » C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Ne pas garder trace des torts, dire, tu sais quoi? Je sais que tu as fait une erreur. Je sais que tu m'as blessé. Je sais que tu as blessé d'autres personnes, mais je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors que ces autres personnes étaient si promptes à souligner son péché, Jésus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va faire? En tant que disciple du Christ, comment essayer de faire en sorte que quelqu'un se sente gêné et honteux de son péché? Comment cela reflète-t-il l'amour de Jésus lorsque nous voyons si clairement un exemple parfait de Jésus disant « Je ne te condamne pas, abandonne ta vie de péché. » L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, c'est ainsi que Jésus nous aime. Même lorsque nous avons honte et sommes gênés par nos péchés, Jésus dit, « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jésus aime ceux qui ont honte et honte de leurs péchés. Comme je l'ai dit, peut-être que quelqu'un est venu ici aujourd'hui. Peut-être que c'est vous dans la foule et que vous avez quelque chose de lourd sur le cœur et que vous vous dites, j'ai fait ça. Comment Jésus pourrait-il m'aimer? Regardez ce péché, regardez tout ce chemin de péché derrière moi, regardez tout ce que j'ai fait. Et Jésus est juste assis là. J'aime quand les gens disent que la meilleure façon de parler à quelqu'un est de se mettre à son niveau. Si vous allez dans la salle des enfants, vous verrez les responsables se mettre à hauteur des yeux des enfants. Jésus descend et dit, « Où sont ces gens qui vous condamnent ? Moi, je ne vous condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jésus voit au-delà de votre péché. Il voit au-delà de vos erreurs, de votre honte, de votre embarras, et il voit simplement quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu. Il voit quelqu'un qui était digne d'amour. Il voit quelqu'un qui valait son prix sur la croix. Moi non plus, je ne vous condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus aime ceux qui se sentent mal aimés et exclus. Jésus aime ceux qui ont honte et sont gênés par leurs péchés. Maintenant, la prochaine histoire dont nous allons parler est... La troisième histoire dont nous allons parler. Les disciples montent donc à bord d'une barque, sur cette grande étendue d'eau. Il est dit, à la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux marchant sur la mer. Mais quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent terrifiés. Réaction valable. Et il dit, c'est un fantôme, je penserais probablement la même chose. Et ils crièrent de peur. Mais aussitôt Jésus leur parla, disant, prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. J'aurais probablement encore un peu peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre descendit donc de la barque, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais, voyant le vent, il eut peur et commençait à enfoncer, et il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Oh ! Tu as peu de foi. Pourquoi as-tu douté ?» Et lorsqu'ils furent montés dans la barque, le vent s'arrêta, et ceux qui étaient dans la barque l'adorèrent, disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu !» Juste un petit rappel, les disciples ont exercé un ministère avec Jésus. Ils ont vu ses miracles. Ils ont vu les œuvres qu'il a accomplies. Et quand Jésus dit, « Viens », qu'arrive-t-il à Pierre quand il a les yeux fixés sur Jésus ? Il regarde, il voit Jésus. Il marche sur l'eau. Un miracle se produit juste là parce qu'il garde les yeux fixés sur Jésus. Mais que se passe-t-il au moment même où il quitte Jésus des yeux et remarque le vent et les vagues ? Il commence à couler. Maintenant, pour beaucoup d'entre nous, peut-être avons-nous grandi dans l'Église, peut-être que nous sommes nouveaux dans notre foi. À un moment donné dans votre foi, il y aura une tempête. Il y aura du vent, il y aura des vagues, il y aura des obstacles. Jésus ne promet pas que dès que vous lui donnerez votre vie, tout sera soleil et arc-en-ciel. Mais que se passe-t-il pendant la tempête ? Que se passe-t-il pendant la tempête ? Gardez les yeux fixés sur lui. Le troisième point est que Jésus aime ceux qui trébuchent dans leur foi. Parce qu'à un moment donné de votre vie, cela pourrait arriver. Peut-être que cela se produit en ce moment même où vous avez l'impression de trébucher. Vous avez l'impression qu'il y a des vagues et du vent et que les choses deviennent folles dans votre vie. Dans quelle direction allez-vous ? Où sont vos yeux ? Beaucoup de gens aiment regarder Pierre et « Ah, vous avez peu de foi, Pierre !» Mais combien de fois dans notre vie quittons-nous Jésus des yeux et commençons-nous à remarquer les vagues, la tempête, le vent ? Oh mon Dieu, c'est tellement fou. Et j'adore ça. Même si Pierre coule et qu'il a quitté Jésus des yeux, quand il dit, « Jésus, sauve-moi !» Il dit immédiatement, « Jésus n'a pas aimé. Tu m'as quitté des yeux, mec, je vais te laisser couler un peu. Apprends ta leçon. » Non, il est dit qu'il s'est immédiatement penché et l'a sorti de là. Peut-être que dans cette tempête, nous sommes tellement occupés, toujours pris au piège. « je me noie, Jésus, sauve-moi !» Et immédiatement, Jésus a tendu la main et l'a sauvé. Jésus aime ceux qui trébuchent dans leur foi. Parce qu'à certains moments, c'est difficile d'entendre Dieu. Le vent est vraiment fort, mais ce n'est pas la vitesse à laquelle vous allez qui compte. C'est la direction dans laquelle vous allez qui compte. Pierre aurait pu prendre son temps. Il a gardé les yeux fixés sur Jésus. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Il est peut-être temps de crier. « Jésus, sauve-moi !» Cette tempête est trop forte, le vent est trop fort, « Jésus, sauve-moi !» Immédiatement, il a tendu la main et l'a sauvé. Immédiatement, il a tendu la main et l'a sauvé. Maintenant, le dernier passage des Écritures que nous allons examiner, nous l'apprenons. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Nous l'apprenons, c'est le plus grand acte d'amour, la plus grande démonstration d'amour dans la Bible, le plus grand acte d'amour. Il survient à la fin de la vie de Jésus. Dans Romains 5:7-9, il est dit, « À peine mourrait-on pour un juste, mais peut-être oserait-on mourir pour un homme de bien. » Mais Dieu prouve son amour. Écoutez ceci, Église, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui, à cause de la colère de Dieu. Waouh ! Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que vous vous sentiez peut-être mal aimé, rejeté, exclu, blessé par des personnes dans l'Église, peut-être avez-vous honte, êtes-vous gêné par vos erreurs passées, vos péchés passés ? Peut-être que votre foi trébuche, mais il est pourtant dit au verset 8, « Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Waouh ! Laissez cela pénétrer une seconde. Nous voyons tellement de fois dans la Bible que Dieu utilise des personnes, quel que soit leur passé. La majeure partie du Nouveau Testament a été écrite par Paul avant que Dieu ne l'appelle, il assassinait des chrétiens en allant chercher des personnes qui suivaient Jésus et en les tuant. Mais Dieu a dit, je vais t'utiliser. Peu importe ce que tu as fait, je t'utiliserai. En grandissant, j'ai grandi dans l'église. Les portes étaient ouvertes. J'étais là. Et pendant le lycée, ce n'était pas que je ne croyais pas en Dieu, mais je ne vivais certainement pas ma foi. J'étais le genre de personne qui allait à l'église et mettait mon masque de louange et d'adoration. Puis quand je partais, je me disais, très bien, je vais aller dans le monde. J'ai besoin que ces gens m'aiment. J'ai besoin que ces gens me fassent sentir important. Et je me suis toujours senti appelé à entrer dans le ministère, mais je ne l'ai certainement pas vécu. Personne ne l'aurait deviné. Et je traînais avec des gens et ils me demandaient, alors, qu'est-ce que tu vas faire après le lycée ? Et je leur ai juste dit que j'allais être pasteur. Et je n'oublierai jamais ça. Quand je ne vivais pas une vie chrétienne, tout était calme. Je n'oublierai jamais ça. Tout, le bruit, les gens qui parlaient, tout s'est tu. Et Dieu a juste dit, qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, même si j'allais à l'église le dimanche, j'y étais le mercredi, je faisais partie de groupes de réflexion, j'avais une vie différente. Et plutôt que d'attendre que je vienne enfin à lui, Dieu est simplement venu à moi. Et il a dit, je sais que tu es brisé, je sais que tu ne vis pas pour moi, mais je t'ai appelé à un appel plus élevé. Et c'est peut-être toi aujourd'hui. Peut-être que Dieu te parle. Il touche ton cœur et il dit, je t'ai appelé à quelque chose de plus élevé. Parce qu'après le lycée, après ce moment, j'ai dit à tous mes amis, écoutez, j'en ai marre. Je suis entièrement pour Dieu. J'ai perdu tous mes amis avec qui j'étais ami depuis 8 ans. Tous mes amis étaient partis. Mais Dieu a commencé à mettre dans ma vie des gens qui étaient fructueux, qui m'aideraient à porter du fruit. L'un d'eux était mon colocataire à l'université pendant 4 ans. Deux d'entre eux ont été mes compagnons de route pendant 3 ans. Ils étaient tous les témoins de mon mariage. Et en grandissant, je n'aurais jamais pensé être ami avec eux. Mais à cause de cet acte d'obéissance, Dieu a dit, ces gens vont vous aiguiser. Son fer aiguise le fer. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression que votre bilan n'est pas vierge. Il y a des erreurs qui, selon vous, vous freinent. Mais Dieu, il les a aplanies. Il dit, je vous ai appelé et je vous aime. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus vous aime. Je crois que dans le jardin de Gethsémani, lorsque Jésus criait à Dieu, il était si nerveux. Il suait du sang et il disait, « Pas ma volonté, que ta volonté soit faite. » Dieu voyait votre visage. Chacun d'entre vous, il voyait votre visage et il disait, « C'est trop important. Nous sommes des humains. Nous ne pourrions jamais être à la hauteur de la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais Jésus a dit, « Papa, laisse-moi aller là-bas et faire ce paiement. » Alors, pendant que cette folie se déroulait, Dieu disait que cette mission était trop importante. Vous êtes trop important parce que tant qu'ils sont encore pécheurs, je les aime. Je les ai appelés. Maintenant, en tant que disciples du Christ, c'est notre travail de refléter l'amour de Dieu, d'aimer ceux qui se sentent rejetés et exclus, d'aimer ceux qui se sentent peut-être gênés et honteux, d'aimer ceux qui trébuchent dans leur foi. C'est notre mission. Comme le pasteur Steve l'a dit au début, si vous vous aimez les uns les autres, ils vous reconnaîtront comme mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est notre travail d'aimer comme Jésus. Jésus nous a montré comment aimer les gens, non pas en fonction d'un sentiment, mais en fonction de nos actions. Et c'est notre travail d'aimer les gens. Maintenant, puis-je demander à tout le monde de baisser rapidement la tête ? Élèves, ne vous inquiétez pas pour vos parents. Parents, vos enfants se comportent bien, mais prenez juste une seconde et réfléchissez à ce message. Pensez à des façons dont vous pouvez mieux aimer les gens, que vous pouvez utiliser pour aimer les autres. Peut aimer comme Jésus a aimé. Peut-être que quelqu'un vous vient à l'esprit. Peut-être que Noël approche et que ce membre de la famille, cet ami, vous ne voulez pas le voir. Mais vous savez que vous êtes appelé à l'aimer parce que l'amour n'est pas un sentiment, c'est une action. Comment vais-je aimer cette personne ? Prenez juste une seconde. Que ce soit le jour où vous traitez les gens un peu différemment. Pas une résolution du nouvel an, mais que cela commence aujourd'hui. N'attendez pas la nouvelle année. Que cela commence aujourd'hui où vous commencez à vivre et à aimer comme Jésus nous a aimés. Prenez juste une seconde. Nous allons commencer une chanson qui parle de la façon dont Jésus nous aime de bout en bout. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie ? À travers votre passé, à travers vos erreurs, à travers vos péchés, de bout en bout. Il nous aime inconditionnellement, sans condition. Jésus vous aime. Et tout ce qu'il veut, c'est une relation avec vous. Que ce soit le moment où vous aimez un peu différemment, aimez un peu plus. Aimez comme Jésus. Maintenant, alors que nous entrons dans cette chanson, je ne vais pas vous demander, les gars, je me lève. J'écoute juste Dieu. Nous sommes tellement habitués à parler, parler, parler que parfois nous avons juste besoin de prendre un moment et d'écouter. Écoutez simplement ce que Dieu dit à votre cœur. Peu importe ce que cela peut être. Écoutez simplement ce qu'il dit. Et je trouve cela rassurant et chaleureux. Dans vos bras aimants. Et je trouve que je suis en sécurité et au chaud. Dans vos bras aimants. Parce que vous me voyez. Vous me connaissez. Et vous m'aimez de fond en comble. Vous me voyez, vous me connaissez et vous m'aimez de fond en comble. Vous me voyez, vous me voyez, vous. Me connaissez. Pourtant, vous m'aimez de fond en comble. Vous me voyez. Vous me connaissez. Chaleur, chaleur. Vous me voyez et vous me connaissez. Pourtant, vous m'aimez de fond en comble. De fond en comble. Une des choses que nous faisons depuis de nombreuses années en tant qu'Église, c'est d'écouter de nouvelles personnes et de leur demander « Qu'est-ce que vous aimez le plus dans notre Église ?» Et je n'oublierai jamais qu'une personne a écrit sur sa carte « Qu'est-ce que vous aimez le plus dans notre Église ?» Il a dit « J'ai ressenti de l'amour pour la première fois en 2 années. Et notre arme secrète, si vous voulez, c'est l'amour. Et traiter les gens comme Jésus les a traités. J'aime la façon dont le pasteur Owen est revenu à maintes reprises. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un sacrifice. C'est un service. C'est traiter les gens comme Jésus le ferait. Et ma prière est que nous traitions les gens comme Jésus le ferait, comme je traiterai les gens comme Jésus le ferait. Et cela signifie même aimer nos ennemis et être gentil avec ceux qui sont difficiles et durs. Et que Dieu nous aide à aimer notre communauté et à aimer même nos ennemis pour la gloire de Dieu. Alors que nous nous préparons à adorer le Seigneur à travers notre offrande, je voulais vous faire savoir que nous avons eu une année tellement fructueuse. J'ai entendu parler de renouveau. Les gens utilisent ce mot à tort et à travers. Nous pensons aux ministères étudiants, à leur croissance. L'un de nos plus grands défis est de trouver de la place pour les enfants et les adolescents. Et quel défi incroyable d'avoir notre ministère pour hommes. Je veux dire, pour moi, c'est un défi incroyable. C'est tellement cool de voir notre ministère des hommes grandir, notre communion biblique. Donc, Ce fut une année phénoménale d'œuvre de Dieu. Alors que nous arrivons à la fin de l'année, je veux vous faire savoir qu'en décembre, notre église était dans le rouge de 7 000 $. Donc, si vous pouvez nous aider avec cela, peut-être que vous avez eu une année prospère et que le Seigneur vous a conduit à donner un peu plus pour nous aider à rattraper le retard à la fin de l'année, ce serait fantastique. Mais merci beaucoup d'être une église généreuse. Et nous allons maintenant adorer le Seigneur à travers nos dîmes et nos offrandes. Et encore une fois, rappelons-nous que le véritable amour est un sacrifice. Ce n'est pas le cas, vous n'en avez peut-être pas envie. Et c'est une excellente occasion de mettre en pratique le sacrifice en donnant nos ressources pour la gloire de Dieu. Nous allons vous donner différentes façons de donner avec sacrifice et les huissiers viendront dans quelques instants pour recevoir vos dîmes et vos offrandes. Et je trouve que je suis là. En sécurité et au chaud. Et pourtant tu m'aimes de fond en comble. Tu me vois, Seigneur. Tu me connais tout entier. Que tu m'aimes de fond en comble. De fond en comble. Eh bien, merci beaucoup d'être venu adorer avec nous aujourd'hui. Nous aurons des amis ici présents pour prier avec vous si vous souhaitez que quelqu'un prie avec vous. Quelle semaine passionnante nous avons! Aujourd'hui, après ce service, c'est la fête de départ à la retraite du pasteur Kelsey. N'oubliez pas de vous arrêter et de la remercier pour ses années de service. De plus, la veille de Noël, nous avons 3 services, 1, 3 et 5. Et puis, en fait, dimanche prochain, je vais faire un message spécial de fin d'année, et je suis également très enthousiaste à l'idée de ce message. Donc, nous avons beaucoup de choses formidables qui se passent cette semaine. Vous savez, je veux que vous réfléchissiez à la façon dont je termine chaque service. Je termine en disant, « Maintenant, pouvez-vous aller dans la grâce et la vérité ?» Et cela vient en fait de cette histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus lui a montré la grâce. « Je ne vous condamne pas. » Mais ensuite, il a dit, « La vérité aussi. » Maintenant, abandonnez votre vie de péché. Et c'est de là que cela vient. Et c'est la seule chose que j'espère que vous retirerez de votre présence dans notre Église, la grâce et la vérité. Alors, merci beaucoup d'avoir adoré avec nous aujourd'hui. Maintenant, puissiez-vous aller dans la grâce et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde a dit, Amen. Passez une bonne semaine. Parce que vous voyez,